Celui qui a prié Dieu pour qu'il donne à manger, hein, je l'ai dit tout à l'heure, à boire à son peuple. Celui qui est monté sur la montagne pour recevoir les tables de la loi. Et il y a encore plein de choses. Et en fait, quelque part, il lui rappelle ce qu'il devait craindre le plus, sortir avec foi dans un pays étranger contre des armées immenses sans Moïse. Et quelque part, Dieu, il n'évite pas la réalité. Il aborde la dure vérité. Mais si on regarde d'un peu plus près ces quelques mots, ces mêmes quelques mots, « Moïse, mon serviteur, est mort ». Ces quelques mots, ils ont aussi un encouragement, je trouve, qui est fort. « Moïse, mon serviteur ». Moïse n'était en quelque sorte que le serviteur de Dieu. Moïse est mort, mais Dieu, lui, est toujours là. Et lui ne mourra pas. Ses promesses n'expireront jamais. Le verset continue et dit « Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout le peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. » Les promesses de Dieu, les promesses que Dieu avait faites à Moïse sont toujours là. Peu importe les circonstances qui entourent Josué ou qui nous entourent, Dieu n'abandonne jamais sa parole envers lui, ni envers nous d'ailleurs. Il continue en lui disant « Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. » Comme je l'ai dit à Moïse, vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban que voici, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Waouh ! Peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont inquiets ou qui ont été inquiets depuis que la famille B est partie. Et si je dois être honnête, personnellement, quand ils me l'ont annoncé, j'ai été pas mal déstabilisé. Mais comment on va faire ? Ils font tellement ! Peut-être qu'il y en a qui ont été déstabilisés quand Joël, avec foi, a choisi de passer le relais à de jeunes anciens pour l'idée de l'Église. J'aimerais vous rappeler ce matin, nous rappeler que Dieu, c'est lui qui bâtit son Église. C'est lui qui le fait et il sait ce qu'il fait. Et ses promesses, elles n'ont pas changé. Au cours de l'histoire, il va utiliser des serviteurs et des servantes pour accomplir son plan. Mais c'est bien lui, Dieu, qui accomplit son plan. C'est lui qui est le maître de l'histoire. Quand Moïse est mort, il a confié la mission à Josué. Il a demandé à Josué ce qu'il avait demandé à Moïse de faire. Dieu n'a pas besoin d'hommes et de femmes capables, dignes pour sa mission. C'est lui qui rend les hommes et les femmes capables et dignes pour sa mission. Et ça déjà devrait commencer à nous donner du courage. Ensuite, ce texte nous dit que le courage repose sur l'assurance de la présence de Dieu. Au verset 5, « Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Ce verset, quand je l'ai lu, il résonnait avec cette parole de Jésus. Sans doute, vous vous rappelez de cette parole de Jésus, quand il a donné ce grand appel. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Et c'est ce qui fait... Et c'est ce qui doit faire la différence. Si la mission que nous devions accomplir était à portée de main, si nous avions toutes les qualifications requises pour la mener à bien, toutes les provisions, les forces, les armes, alors nous nous appuierions que sur nos propres forces, notre propre discernement, notre propre volonté. Mais Dieu veut que nous nous appuyions sur lui. C'est justement quand Dieu nous amène devant des choses qui nous paraissent démesurées, insurmontables, que nous devons nous rappeler qu'il est là. Le même Dieu qui a fait des miracles extraordinaires tout au long de l'histoire. Pensez-vous que Dieu aurait laissé Josué sur le carreau ? Si Dieu nous a appelés, il est avec nous. Si Dieu nous a appelés, il est avec nous. Être courageux ne veut pas dire que nous n'aurons jamais peur. Cela veut dire que nous ferons confiance aux ressources d'en haut, aux ressources divines, plus qu'à nos propres ressources, à nous. Dieu encourage Josué et lui demande de compter sur lui et non en ses propres capacités. La mission de Dieu en elle-même est une déclaration de sa présence. Dieu est là. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire en lui, avec lui. Nous devons aller là où Dieu nous dit d'aller, faire ce qu'il nous demande de faire, combattre ce qu'il nous demande de combattre, parler quand il nous demande d'ouvrir la bouche. Imposer les mains, comme je l'ai dit tout à l'heure, délivrer, baptiser, aimer, panser les plaies. Comme avec Josué, il nous a promis d'être avec nous tous les jours, partout où nous irons. Et ce sont des paroles tellement importantes. des paroles tellement importantes que Dieu adresse aux craintes d'Israël. Je suis avec toi, je te ne délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi partout où tu iras. Et si c'est une promesse, mais pas seulement de la terre, pas seulement une promesse de victoire sur des ennemis, ou de paix, ou de lait et de miel, mais c'est une promesse du Dieu éternel. Si nous croyons vraiment que Dieu, le Dieu de l'univers, est avec nous, vraiment avec nous, quelles que soient les peurs, les défis, les montagnes auxquelles nous serons confrontés, nous aurons le courage d'avancer. C'est un appel à faire confiance à la force de Dieu pour répondre à nos besoins alors que nous partons œuvrer dans sa mission. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Dieu fait tout ce qu'il promet en toutes circonstances et à tout moment. Lorsque la vie devient difficile, il nous invite à venir vers lui pour que nous nous appuyions davantage sur sa parole. Amen. Le courage repose aussi sur la conviction que c'est Dieu qui est à l'œuvre au travers de nos vies. Que c'est Dieu qui nous a choisis, qui vous a choisis. Et trois fois, Dieu répète dans ce passage, « Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage, à plusieurs reprises. » Et je ne pense pas que Dieu il ait un problème d'élocution lorsqu'il se répète. C'est intentionnel. C'est intentionnel. C'est à Josué qu'il s'adresse. Dieu ne s'appuie pas sur les capacités de Josué en l'appelant à faire entrer son peuple dans la terre promise. Josué devait être terrifié. Quand il lui dit « Mais ne t'épouvante pas, fortifie-toi et prends courage. » Et d'ailleurs, si on regarde au travers des Écritures, la plupart des personnes que Dieu appelle, si ce n'est toutes, ne sont pas qualifiées pour accomplir ce que Dieu attend d'elles au départ. Considérons Moïse, par exemple, une personne qui manquait cruellement de confiance en lui. Quand Dieu l'a appelé à retourner en Égypte pour libérer son peuple de l'esclavage, à plusieurs reprises, il va répondre à Dieu. Et j'ai relu le texte dans l'Exode 3 et 4, c'est assez impressionnant. Et donc Dieu lui explique ce qu'il attend de lui, et puis Moïse lui répond « Mais qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Et Dieu lui répond qu'il sera avec lui. Et il lui expose comment il va faire. Mais Moïse insiste, il rétorque. « Ils ne me croiront pas et n'écouteront pas ma voix, mais ils diront « L'Éternel ne t'est pas apparu. » Alors Dieu lui montre des miracles qu'il va pouvoir faire. Dieu lui montre des miracles. Prends ce bâton, il prend le bâton, jette-le, ça devient un serpent, ressaisis-le, ça redevient un bâton, mets ta main dans ton sein, sors-le, c'est la lèpre, etc. Et il lui montre des choses impressionnantes. Mais malgré ça, Moïse insiste. « Ah Seigneur, moi je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est d'hier, ni même d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car moi j'ai la bouche et la langue pesantes. » Dieu continue, lui rappelle que c'est lui qui donne une bouche, qui rend muet ou sourd. Et Moïse persiste et signa, « Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de Dieu s'enflamma contre Moïse. Et dans sa bienveillance, il associa Aaron à Moïse pour l'aider dans sa tâche, qu'il lui demande d'accomplir. Et il en est de même pour beaucoup de personnes que Dieu a appelées tout au long de l'histoire. Si on regarde ne serait-ce que les disciples que Jésus a appelés, franchement, au début, est-ce que c'était les personnes les mieux qualifiées? On peut se poser la question. Quand Dieu nous appelle, Il ne nous appelle pas à cause de notre profil. Alors, est-ce qu'il sera compatible pour ce que j'ai prévu? Mais parce qu'il a décidé de nous appeler. Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Quand Dieu nous appelle, nous devons faire attention de ne pas prendre de décision en se basant sur notre profil, sur ce que nous sommes capables ou pas de faire. Dieu n'est pas limité par notre personnalité, il n'est pas limité par nos capacités, il n'est pas limité par notre caractère, il n'est pas limité par notre émotivité, et j'en passe. Alors il y aura sans doute un temps de formation, et ce n'est pas à négliger. Dieu équipe, forme, élève. Mais ne vous attendez pas à être d'attaque au moment où Dieu vous appelle. Josué, il a été aux côtés de Moïse, son assistant. Il a été en quelque sorte discipulé aux côtés de Moïse. Il a vu comment Moïse faisait. Et vous avez tous été appelés à aller faire de toutes les nations des disciples. Si vous fuyez votre appel, cet appel-là, que je viens de citer, en raison de l'opposition, vous fuirez toute votre vie. De même, quand vous avancez dans sa mission et que vous faites face à l'opposition, alors c'est sans aucun doute que vous êtes sur le bon chemin de la foi. Et Jésus n'a jamais promis que ça serait facile. Il a dit que nous serions haïs à cause de son nom. Il a dit que nous serions persécutés, traînés devant les tribunaux, trahis, tués parfois pour notre foi. Mais il nous promit aussi la victoire. Jean 16, verset 33, « Je vous ai parlé ainsi que pour que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » On le vit peut-être peu aujourd'hui, mais croyez-moi, ça ne sera pas toujours le cas. On sera persécuté. Et si on ne l'est pas quelque part, c'est que peut-être on est trop silencieux, peut-être on ne proclame pas assez cette bonne nouvelle. Notre capacité à endurer les épreuves va renforcer notre détermination. Si nous agissons avec courage, nous gagnerons plus de courage. Dieu est avec nous, mais il ne nous fortifiera que lorsque nous lèverons la jambe et que nous la mettrons en avant pour avancer. Hein ? Il ne peut pas diriger une voiture qui est garée et le vent ne soufflera que lorsque nous hisserons la voile. Il faut se mettre en action. Le courage repose sur la conviction que c'est Dieu qui est à l'œuvre au travers de nos vies. C'est lui qui vous a choisi, qui nous a choisi. Et le courage aussi, il est ancré dans la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas nous convaincre nous-mêmes d'être forts et courageux. Mais Dieu le peut. On va relire les versets 7 et 8, où Dieu dit à Josué, « Seulement fortifie-toi et bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Si vous voulez trouver la force, si vous voulez trouver de la force lorsque vous vous sentez faible, ou du courage lorsque vous avez de la crainte, que vous avez peur, méditez sur ce que Dieu a dit et faites tout ce qu'il a dit. Nous devons laisser ses promesses, ses commandements et ses œuvres submerger, envahir nos craintes. Et c'est alors que nous chercherons à connaître et à exécuter la volonté de Dieu que la force et le courage surgiront en nous par la puissance de son Saint-Esprit. Dans ce texte, on lit que le succès ou l'échec de la mission est lié à notre relation à la vérité, à notre relation à la parole de Dieu. Et ce passage, il nous invite à proclamer la parole, à la méditer et à la mettre en pratique. Tout d'abord, il dit à Josué, « Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. » Une bouche, elle est faite pour parler, pour communiquer. Cela signifie que la parole doit être lue à haute voix. La parole doit être proclamée par chacune de nos bouches. Ce n'est pas réservé à quelques-uns. 2 Timothée 4, verset 2, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte, avec toute patience et en instruisant. » Deutéronome 6, verset 6 à 9, et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main, et elles seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. C'est vraiment un encouragement à parler et vivre la parole de Dieu dans nos vies quotidiennes, à chaque occasion, à chaque instant, à toute heure, du jour et de la nuit. Tu y méditeras jour et nuit. Vous ne pourrez proclamer que la parole que vous avez méditée, dont vous vous êtes imprégné. Le psaume 1 nous dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. » En quelque sorte, ça doit être le bruit de fond de nos vies. Le bruit de fond dans nos vies. Quand les épreuves elles arrivent, on monte le volume. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et puis il y a une difficulté qui arrive, on monte le volume. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est de ça dont il s'agit. Nous devons nous immerger dans ce livre. Nous devons l'aimer et le vivre. Et puis aussi, Dieu invite Josué à observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Il ne suffit pas de nourrir nos âmes de la parole de Dieu, elle ne portera du fruit dans nos vies que quand nous la mettrons en pratique. Dieu nous demande plus que de la connaître. Il nous demande de l'appliquer à nos vies en lui obéissant et en lui faisant confiance dans notre marche de tous les jours. On verra dans les chapitres suivants que les Israélites vont remporter de grandes batailles impressionnantes et qui vont aussi subir de cuisants échecs, défaites. Et ces défaites ont un lien direct avec leur désobéissance envers ce que Dieu leur a commandé, leur a demandé. Comme je l'ai dit, le succès ou l'échec de notre mission est lié à notre relation à la vérité, à la parole de Dieu. Dieu nous a envoyé et donné une mission. C'est un appel commun d'aller, de faire des nations des disciples, des cœurs à conquérir. Et il n'y a pas de courage sans mission. Vous êtes courageux pour quelque chose. Le défi est impossible à relever sans s'appuyer sur lui. Dieu ne nous envoie pas seul, mais il est avec nous tous les jours et il a déjà remporté la victoire. Il nous commande de nous ancrer dans sa parole pour résister aux jours difficiles et avoir du succès dans la mission à laquelle il nous appelle tous. Et au travers de tout ça, ce que je trouve extraordinaire, c'est que la finalité, c'est que c'est Dieu qui en est glorifié. 1 Pierre 4, verset 11, « Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Et dans ce qu'on va lire dans ce livre de Josué, on va voir ô combien Dieu est glorifié au travers de tout ce qui est fait. Voilà, c'était vraiment un encouragement pour nous ce matin, à nouveau à retrousser nos manches et à se laisser fortifier, encourager par Dieu, par la parole de Dieu, pour oser, comme nous l'a invité Sylvain tout à l'heure, à ouvrir nos bouches, à inviter, par exemple, Parcours Alpha, à oser proposer de prier quand on voit que quelqu'un est dans le besoin, est malade, est triste. Il y a une urgence, vraiment, pour les hommes de prendre des décisions vis-à-vis de Jésus aujourd'hui, plus qu'hier, je trouve. Une vraie urgence pour que son Église se lève et annonce qu'il n'y a aucun autre salut qu'en Jésus. La semaine dernière, avec Claudie, on était avec les enfants et on leur a parlé du salut. Et en parlant, vraiment, j'ai réalisé ô combien c'était important. Quand Jésus a été crucifié, il a été crucifié, il a été mis sur une croix, il n'avait commis aucune faute. Il ne méritait pas la sentence qui lui était infligée. Et à gauche et à droite, il y avait deux brigands qui, eux, avaient commis des crimes et qui, eux, méritaient la sentence qu'on leur avait infligée. Il y en a un qui va se tourner vers Jésus et qui va se moquer de lui. Mais il y en a un autre qui va se tourner vers Jésus, qui va le reconnaître et qui va lui demander pardon. Et qu'est-ce que Jésus lui dit à cet instant ? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et ce qu'on disait à ses enfants, c'est qu'aujourd'hui, cette décision, celle que les brigands ont prise, d'accepter ou de refuser, on doit la prendre. Beaucoup d'entre nous l'avons prise, peut-être certains parmi nous ne l'ont pas encore prise, mais c'est une décision que vous devez prendre aujourd'hui. Quand vous serez mort, il sera trop tard. Et quelque part, ce n'est pas vraiment une question de vie ou de mort, c'est une question de où est-ce que tu veux vivre ton éternité aussi. La personne qui est le brigand qui a dit oui, Jésus lui a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et ceux qui acceptent Jésus dans leur cœur, qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur, comme leur Seigneur, ne craignent pas la mort parce qu'ils savent vers qui ils vont aller après. Par contre, ceux qui refusent, il y en a qui refusent, il y en a qui n'acceptent pas. Pour eux, un châtiment terrible les attend. On est dans des jours de patience de notre Seigneur. Mais Jésus revient. On est toujours aussi un peu plus proche du retour de Jésus, je dirais. Et vraiment, il y a une urgence, frères et sœurs. Et quand je dis ça, je le dis aussi à moi-même. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Les nouvelles sont là pour nous le rappeler chaque jour. Les atrocités qui sont commises, parfois à nos portes, des enfants qui souffrent, des couples qui souffrent, des familles qui souffrent. et nous avons un trésor que nous devons partager et que Dieu nous appelle à partager. C'est pour ça que Jésus nous a donné cette mission et qu'il nous a dit « Allez, proclamez cette bonne nouvelle parce que c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle extraordinaire. » Et donc ce matin, j'ai envie de vous dire « Fortifie-toi et prends courage. » Cette mission peut paraître démesurée, mais c'est Dieu qui est aux commandes. C'est Dieu qui écrit l'histoire. C'est Dieu qui te qualifie. Amen. Amen. Soyez fortifiés et encouragés. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.